Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Après avoir bâti un empire industriel hors du commun, il a dirigé le Trésor américain pendant plus de 10 ans et a été accusé d'avoir barboté 3 millions de dollars au beau milieu de la pire crise économique que les États-Unis aient connue. Je vous raconte maintenant l'homme pour qui on a inventé le mot bankster, Andrew Mellon. Nous sommes le 24 mars 1933 à New York, aux États-Unis. Le passager de première classe qui descend ce jour-là d'un paquebot de luxe n'est pas tout à fait n'importe qui. C'est un homme âgé, certes, qui vient de fêter ses 78 ans, mais il n'a perdu ni son influence, ni son élégance avec son chapeau de feutre, sa longue silhouette et sa moustache de gentleman farmer. Ambassadeur des États-Unis à Londres, ce vieux républicain sait qu'il est sur le point de perdre son poste depuis la victoire à la présidentielle du démocrate Franklin Delano Roosevelt. Mais Andrew Mellon est toujours à la tête d'un vaste empire industriel et bancaire et espère sans doute couler une retraite heureuse. Ce que le patriarche n'a pas mesuré, en revanche, c'est que deux grains de sable s'apprêtent à gâcher ses vieux jours. D'abord, le New Deal, cette politique de relance que le président Roosevelt veut mettre en œuvre à grand renfort de fonds publics. Une hérésie pour Andrew Mellon, qui, en libéral convaincu, connaît d'autant mieux l'état des finances américaines qu'il a passé plus de 10 ans à la tête du Trésor avec un grand T, l'équivalent américain de notre ministère des Finances. Le deuxième est le livre de Harvey O'Connor, Mellon's Millions, les millions de Mellon, une biographie qui connaît un remarquable succès d'édition. Au fil des pages au vitriol, le journaliste de Pittsburgh accuse Andrew Mellon de s'être enrichi de manière extravagante en profitant des lois qu'il faisait passer en tant que secrétaire du Trésor. Comme Andrew Mellon ne s'est pas fait que des amis lorsqu'il était en poste, ses ennemis ne manquent pas d'embrayer. Au Congrès, le représentant Louis Thomas McFadden va encore plus loin. Il accuse Andrew Mellon d'avoir carrément fraudé le fisc. Au terme de l'enquête, Andrew Mellon est officiellement accusé d'avoir sous-déclaré ses revenus pour l'année 1931. Et pas qu'un peu. Les gendarmes du fisc américain réclament 3 millions de dollars à leur ancien patron. En première instance, Andrew Mellon est innocenté, mais décide de contre-attaquer avec un certain culot, en réclamant cette fois un remboursement de 130 000 dollars devant une instance qu'il connaît bien pour l'avoir personnellement mise en place en 1924, le Board of Tax Appeals, un tribunal arbitral conçu pour résoudre les conflits entre le fisc et les contribuables américains. Devant les juges de Pittsburgh, le procès devient bien vite plus qu'un simple contentieux fiscal, en raison d'abord du parcours d'Andrew Mellon, mais aussi parce que l'ancien secrétaire du Trésor transforme le tribunal en véritable arène de combat. Quand il prend la parole au printemps 1935, c'est pour affirmer que ses vieux ennemis démocrates, partisans de ce New Deal qu'il déteste, lui font un procès politique. Pour l'homme qui a servi sous trois présidents, Warren Harding, Calvin Coolidge et Herbert Hoover, c'est une authentique vendetta qui l'amène devant les juges. Le procès est évidemment l'occasion d'un retour sur la carrière d'Andrew Mellon. Au cours de la grosse décennie qu'il a passée à la tête du Trésor, Mellon a construit une politique fiscale d'inspiration libérale bâtie sur l'idée que les baisses d'impôts pour les plus riches garantissent deux choses. Moins de fraude fiscale d'une part, des investissements plus importants dans l'économie américaine d'autre part. Et ces idées ont porté. Alors que le taux d'imposition réservé aux tranches les plus élevées atteignait 73% en 1918, il est tombé à 25% en 1932 lorsque Mellon est nommé ambassadeur des États-Unis en Angleterre. Mais avec le procès, le grand public découvre aussi un autre Andrew Mellon, plus discret encore que l'homme d'État, le businessman. Né à Pittsburgh en 1855, Mellon n'est pas parti de rien. À ses débuts, il a profité de la réussite de son père, fondateur d'une banque, certes modeste mais prospère. Le fils en a fait en quelques décennies l'un des plus grands établissements bancaires de Pennsylvanie, mais il a surtout bâti un immense empire industriel et commercial, un ensemble complexe qui pèse lourd dans tous les secteurs, du charbon à l'acier en passant par l'aluminium, le pétrole ou les chantiers navals. En 1921, lorsqu'il est devenu secrétaire du Trésor, Mellon était l'un des hommes les plus riches d'Amérique et l'un de ses premiers contribuables d'ailleurs. Au procès, Ses avocats ne se privent pas de rappeler que Mellon a versé plus de 21 millions de dollars au fisc depuis la création de l'impôt fédéral sur le revenu en 1913. Mais justement, Mellon a-t-il profité de sa position pour imposer des réformes fiscales favorables à ses intérêts professionnels et privés ? La question est d'autant plus délicate que la frontière entre l'optimisation fiscale et la fraude est parfois ténue. Juridiquement parlant, la guerre que se livrent les avocats devant le Board of Tax Appeals est pour le moins technique. Une armée de fiscalistes n'y retrouverait pas ses petits, mais en simplifiant à grands traits, on peut dire qu'on accuse Mellon d'avoir détourné trois dispositifs qui permettent d'obtenir des déductions au titre des fusions d'entreprises, de la déduction des pertes et des initiatives philanthropiques. Bref, Mellon aurait exploité des zones grises d'un cadre fiscal qu'il connaît comme sa poche, et pour cause. Le dernier cas, celui des œuvres philanthropiques, est d'ailleurs l'occasion d'un débat amusant. En 1932, Andrew Mellon a acheté plusieurs magnifiques peintures au musée de l'Ermitage en Russie, dont une Madone du peintre Raphaël. Deux ans plus tard, il a obtenu une réduction d'impôt en invoquant la loi sur la philanthropie. Le seul problème, c'est que personne, à part Andrew Mellon et ses proches, n'ont jamais pu profiter des œuvres en question, soigneusement abritées à son domicile personnel. La philanthropie a bon dos et les médias américains s'en amusent grandement. Ce qui se déroule devant les trois magistrats du board est bien plus qu'un affrontement entre le trésor américain et son ancien patron. Ce sont à la fois deux conceptions de l'impôt et deux visions de l'Amérique qui s'affrontent. Jusqu'où faut-il taxer les plus riches ? Comment définir ce qui relève de l'optimisation et de la fraude fiscale chez les plus fortunés, c'est-à-dire du refus de l'impôt ? Au beau milieu d'une crise économique interminable, alors que des centaines de milliers d'Américains ont perdu leur emploi et que des familles entières crèvent parfois littéralement de faim, les millions que M. Mellon n'a pas jugé bon de payer attisent une colère latente, une rage profonde qui se fait sentir jusqu'aux portes du tribunal et parfois à l'intérieur. Dans les médias, certains n'hésitent pas à faire de Mellon un autre Al Capone, un bankster, pour reprendre un néologisme qui naît à cette époque. Mais contrairement à Al Capone, qui avait fait l'erreur de ne pas s'entourer d'experts du droit fiscal, l'ancien ministre peut compter, lui, sur une armée de fiscalistes dans un procès qui s'éternise. Au tout début de 1937, Andrew Mellon prend une décision qui fait beaucoup parler. Alors que le tribunal n'a pas encore rendu sa décision, il s'engage d'une part à céder l'ensemble de sa prodigieuse collection d'œuvres d'art à l'État américain et d'autre part à verser 9 millions de dollars pour construire le musée qui les abritera. Washington accepte, ce que beaucoup dénoncent, en y voyant un arrangement à l'amiable particulièrement commode. Andrew Mellon avait peut-être quelques arrière-pensées, mais il est aussi rattrapé par la réalité. Malade, âgé de 82 ans, il sait qu'il n'en a plus que pour quelques mois. Il s'éteint le 27 août 1937, 4 mois avant que le verdict ne tombe. Un verdict clément. Le 1er décembre, le Board of Tax Appeals conclut, je cite, « à l'absence d'intention d'évasion fiscale de la part de l'ancien secrétaire au Trésor ». 4 ans plus tard, en mars 1941, lorsque Franklin Delano Roosevelt inaugure la National Gallery of Art à Washington, entièrement financée par feu Andrew Mellon, beaucoup le voient aux États-Unis comme une manière de baisser définitivement le rideau sur une sale affaire.